7h16 minutes, Monsieur McSween, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, on va revenir sur une décision qui découle du dernier budget du gouvernement du Québec, la fin du programme Rénovaire.
Oui, les gens s'insurgent, m'écrivent, mon Dieu, c'est fini le Rénovaire, on pense pas à l'environnement. Bon, prenons une mesure fiscale ici, qui se termine le 31 mars. Il y a deux raisons de mettre une mesure fiscale en place. Un, aider des démunis. Et deux, modifier un comportement. Et ici, les gens disent « Hey, le programme Rénovaire va permettre les gens d'investir dans le vert. » Mais quand on regarde le détail, tu sais, étanchéiser à l'eau les fondations, mettre de l'isolant, changer tes fenêtres, changer de système de chauffage, c'est peut-être quelque chose que tu ferais avec ou sans crédit. Donc là, le crédit te permettait d'avoir 20% sur ce qui dépassait 2 500 $ de dépenses jusqu'à un maximum d'argent dans tes poches de 10 000 sur une valeur de dépenses de 52 500 $. Mais là, les gens, quand ils protègent Rénovaire, ben, parlent surtout de « Hey, ça aide les gens à pas faire de fraude fiscale, surtout parce qu'ils déclarent leur rénovation. » Ah, OK, là, vous êtes en train de dire, on a un programme vert, mais dans le fond, le but, c'est pas le vert, c'est que les entrepreneurs arrêtent de frauder. Ben, dans le bord, arrêtez d'appeler ça un programme Rénovaire, appelez ça simplement, soyons d'honnêtes citoyens et déclarons nos dépenses. Mais, c'est sûr que ça me fait penser aussi un peu au crédit de recherche et développement d'entreprise. Tu sais, les gens font des projets de recherche et développement, puis après ça, ils cherchent avec des experts comment ils peuvent rentrer dans le programme pour avoir de l'argent. Ben, le crédit Rénovaire, parfois, c'est un peu ça. Tu faisais des rénos chez vous parce que t'en avais besoin et t'en profitais pour demander des remboursements d'argent, mais c'était pas lié nécessairement au fait que c'était vert ou que t'avais changé ton comportement. C'était lié au fait que tu dis, ah, ben, il y a un programme qui existe, j'ai dépensé 30 000, je vais aller voir si je peux avoir une coupe de piastres.
Mais là, j'ai une question à te poser.
Oui.
Est-ce que ces programmes-là font en sorte que les prix augmentent? C'est-à-dire que l'entrepreneur sait que son client est crédit, sait qu'il va y avoir plus de demandes qu'à l'habitude, donc en profite?
Ben, il y a encore la compétition, offre et demande. Donc, techniquement, Paul, dans un monde égal, toute chose étant égale par ailleurs, il y a un marché en équilibre de compétition. Donc, non, il n'y aurait pas d'augmentation des prix. Par contre, il y a des choses qui se font. Moi, je l'ai vu, Paul, des fois, j'ai fait soumissionner des gens, il y a des gens qui m'ont dit, ah, ben là, tu as le droit au crédit Rénovaire. Ben là, je dis, excusez-moi, moi, j'ai pas droit au crédit Rénovaire parce que c'est pour une portion que j'habite pas dans un immeuble que j'habite pas, donc j'ai pas droit. Ah, d'abord, on va négocier. Ah!
OK.
Tu comprends?
Okay.
Donc, quand ils te vendent le 15%, puis quand tu peux pas l'avoir, ou ils te vendent pas le 15%, mais le pourcentage, le 20%, mais quand tu peux pas l'avoir, là, ils sont prêts à jaser. Donc, finalement, on vient de comprendre entre toi et moi ce qui se passe. Il y a d'autres personnes, écoute, ben, tu fais ton pieuter ta maison. Tu mets des fonçages de pieux parce que c'est sur l'argile. Et là, t'aurais quand même creusé à l'entour de la maison. T'aurais quand même mis un drain français, mais là, comme par hasard, t'as droit pour le drain français puis étanchéiser ta fondation, tu comprends? T'as le droit au crédit Rénovaire. Ben, c'est drôle, hein? La portion des travaux qui est liée au pieutage devient en dollars moins élevée et la portion qui est liée à l'étanchéisation des fondations prend tout d'un coup de la valeur. Tu me suis-tu? Donc, on est en train simplement de, des fois en tant qu'entrepreneur, jouer avec les chiffres pour te donner comme client le plus de remboursement possible, alors que dans la vraie vie, la portion de travaux qui est éligible aurait été moins grande. C'est une façon de jouer avec les subventions.
Bon. Là, on est en pleine saison des impôts, c'est sûr, là. Et d'ailleurs, je sais pas, je reçois beaucoup de plaintes de gens qui tentent, et là, je parle de gens aussi, pas juste des contribuables, mais des gens qui préparent les déclarations fiscales des contribuables. Service à la clientèle, l'Agence de revenus du Canada, là, et boy.
Moi, j'ai appelé les deux, là, puis votre appel est important pour nous. Le délai est de plus de 35 minutes. Tu sais, c'est un peu ça que tu vis, là, comme contribuable. Mais là, j'ai des questions, Paul.
Vas-y donc.
Des questions. Tout le monde me prend pour une ligne 1-800. J'ai pas le temps, évidemment, de répondre, mais je peux répondre at large, si tu veux, à tout le monde. Donc, première question que j'ai eue, c'est « Bonjour, je vends mon immeuble à revenus, mais le problème, c'est que je fais un gros gain en capital. Connaissez-vous une façon d'éviter de l'impôt? » Alors, ma réponse, c'est non, monsieur. Si vous faites un gain de 100 000 sur votre immeuble pour la partie locative, vous devez payer un gain en capital avec un taux d'inclusion de 50%, mais soyez content. Si jamais vous n'avez pas amorti votre building, vous n'aurez pas à payer, tu sais, la récupération d'amortissement. Donc, quand tu amortis ton immeuble, des fois, tu as de la récupération d'amortissement à payer à la revente. Et là, ça dépend que ton traitement fiscal passe.
Mm-hmm.
Bonjour, j'ai un prêt étudiant. Devrais-je rembourser le prêt rapidement, je vois qu'il y a un avantage fiscal. Exactement. Si tu as un avantage fiscal avec ton prêt étudiant, puis que tu as d'autres dettes, ben garde ton prêt étudiant avec le gouvernement. C'est le moins cher que tu as. Je te dis pas de pas rembourser, mais c'est quand même le moins cher. Troisième question.
C'est lui qui presse le moins.
Oui, exact.
OK.
Bonjour. J'hésite à me déclarer conjoint de fait avec ma conjointe pour ne pas perdre des avantages fiscaux. Bon. Parfois, le contribuable, c'est un drôle d'homo economicus. Là, il pense à ses allocations, il pense à son crédit d'impôt pour personne vivant seule. Tu sais, il pense à ses avantages de ne pas se déclarer conjoint de fait. Mais si ton conjoint ou ta conjointe meurt subitement, là, tu vas le regretter de ne pas l'avoir mis comme conjoint-conjointe de fait parce que là, tu pourras pas te faire rouler son immeuble à revenus au coût fiscal sans impact fiscal immédiat, pourras pas te rouler ses REER ou son CELI dans ton CELI sans défoncer le plafond, à moins que tu aies de la place. Donc, il y a ça, et il y a aussi la rente du survivant du régime des rentes du Québec. Donc, avant d'être cheap sur le conjoint de fait, pensez aux conséquences d'un décès. Quatrième question. J'ai vendu un immeuble à revenus à mon fils à un prix d'ami. Il y a quand même un petit gain. Est-ce que je peux éviter l'impôt? Bon, ben monsieur, mauvaise nouvelle. C'est pas parce que c'est ton gars puis tu as fait un prix d'ami que tu ne seras pas imposé sur la juste valeur marchande. Donc, pour la portion locative, il y a de l'imposition. Rapidement en sortant, il y a des étudiants qui me disent « Hey, Pierre-Yves, je remarque que j'ai pas le droit de la prime au travail parce que je suis étudiant. » Ben, c'est pas juste. Ah, tu sais qu'en 2012, le gouvernement du Québec n'a pas augmenté les droits de scolarité, mais en compensation, c'est arrangé pour que l'étudiant à temps plein perde sa prime au travail et aussi que son crédit pour examen passe de 20 % à 8 % Alors, on a fait le printemps érable, mais en 2013, on a perdu deux avantages fiscaux. Alors, Paul, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme.
Merci, monsieur, pour ces précieuses réponses. Bonne journée. 7h22.